Suite cet après-midi d'un dossier que nous avions ouvert il y a un mois autour de la diversité des langues. Le linguiste de terrain Nicolas Tournadre revient pour ce dossier de la tête au carré et nous emmène sur le chemin des 7000 langues existantes sur notre planète. Cet hyper polyglotte répondra à toutes vos questions sur franceinter.fr et également sur le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur les grands singes. Ces primates sont aujourd'hui tous en danger d'extinction. La primatologue Sabrina Krief vient nous alerter alors que démarre le 11 février, une exposition à la Grande Galerie de l'Évolution à Paris sur la piste des grands singes. Violaine Ballet réalise cette tête au carré qui a été préparée par Anne-Cécile Perrin avec Axel Villard et Fanny Cohen-Moreau.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Nicolas Tournadre.
Bonjour Mathieu.
Merci de revenir cet après-midi. On repart avec vous donc dans quelques instants, explorer la diversité des langues. Dans l'actualité, on a appris cette drôle d'histoire. Une Chinoise de 94 ans qui était dans le coma est sortie justement de son coma en ayant totalement oublié sa langue maternelle. Elle ne s'exprime plus qu'en anglais, une langue qu'elle n'avait pas parlé depuis 30 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça à votre avis ?
Ça montre que les circuits du langage sont très complexes. On a localisé depuis bien longtemps les aires de Wernicke et l'aire de Broca. Mais les choses sont visiblement beaucoup plus complexes, puisqu'on peut avoir des circuits neuronaux qui permettent de véhiculer une langue qui ne sont pas visiblement totalement les mêmes que ceux qui véhiculent une autre langue. Et dans ce cas-là, elle s'est souvenue d'une langue qui n'était pas native, l'anglais. Donc c'est très intéressant d'un point de vue scientifique.
Oui, ça veut dire qu'il y a aussi une mémoire extraordinaire quand même des langues.
Oui, bien sûr. La capacité d'apprentissage des langues est très corrélée à la mémoire. Et c'est très intéressant qu'après cet infarctus qui lui est arrivé, il y a aussi probablement un phénomène émotionnel. Enfin, il y a divers paramètres, mais c'est vraiment un cas d'étude très intéressant. Il n'est pas isolé. Il y a eu d'autres cas de ce type.
Ouais. Vous parlez le mandarin vous-même,
oui,
ou pas?
Mm-hmm.
Ouais. Vous nous en donnez quelques mots pour entendre aussi la sonorité de la langue, pour dire qu'on va se retrouver par exemple dans quelques instants.
On fait un chiron, mais il y a aussi un chiron pour ton roi. Voilà. France Inter.
Voilà, Nicolas Tournadre, notre invité. Et avant la fin de l'émission, j'espère être capable de prononcer correctement avec vous, et grâce à vous surtout, le nom d'un volcan islandais. C'est le pari que je me lance cet après-midi. A tout de suite. À la une de la science aujourd'hui, les primates non humains en danger d'extinction. Une primatologue s'inquiète de l'avenir des grands singes et c'est vous, Sabrina Krief. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Le dernier cahier Sciences et Médecine du Monde vous consacre deux pleines pages cette semaine puisqu'ils ont eu la chance de vous suivre en Ouganda, dans la station où vous travaillez autour des chimpanzés. Vous êtes également commissaire d'une exposition à venir la semaine prochaine au Muséum National d'Histoire Naturelle sur la piste des grands singes. Bonjour Axel Villard.
Bonjour.
Un autre invité surprise d'ailleurs dans ce studio.
Monsieur Victor Nara, un ancien élève de Sabrina Krief, également chercheur au Muséum, qui va nous parler des bonobos.
Voilà, et Victor Nara, vous arrivez d'Afrique ce matin même.
Oui, bonjour, j'arrive juste de Kinshasa, effectivement.
Et c'est là que vous travaillez donc avec les bonobos. Sabrina Krief, vous nous alertez parce que selon vous, tous les grands singes, sans exception, sont en danger aujourd'hui.
Alors, il existe 6 espèces de grands singes et tous, effectivement, sont menacés par différentes types de menaces que sont le braconnage, la perte de l'habitat et les maladies. Mmh. Et donc, il est urgent de prendre des mesures pour éviter cette disparition et surtout de l'associer à des actions concrètes qui permettent de limiter la perte des forêts tropicales.
Ouais, vous avez vu vous-même donc sur le terrain en Ouganda le déclin aussi des populations de chimpanzés là en l'occurrence ?
Alors moi je travaille dans un parc national à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda qui abrite un petit millier de chimpanzés et on a vu depuis une petite quinzaine d'années qu'on travaille là-bas la force des pressions anthropiques de l'activité humaine. Donc sur ces populations de grands singes augmentées.
Ouais, alors comment ça se traduit concrètement alors sur ces chimpanzés d'Ouganda ?
Alors sur les chimpanzés d'Ouganda, concrètement, quand on les voit, on remarque qu'ils ont des mutilations. Hein, certains ont des mains, des pieds amputés. Mais concrètement, sur le terrain, quand on les suit, quand on les observe, on se rend compte que petit à petit, ils sortent du parc national pour aller piller les plantations des villageois qui ont planté par exemple du maïs ou des bananiers à la bordure du parc. Dans la zone de Sébitoli, on a une grande route nationale nationale qui coupe le parc et qui traverse le territoire des chimpanzés. Donc, on peut observer les chimpanzés traverser ce territoire. Oui. Et enfin, 10% des chimpanzés ont des malformations faciales, dont une femelle qui a un bec de lièvre. Et donc là, on s'interroge sur les causes de ces maladies congénitales, à savoir, est-ce que ce sont les pesticides associés à l'agriculture, à la bordure du parc, ou encore l'agent orange qui a été pulvérisé lors des actions de déforestation dans le parc, qui sont la cause de ces maladies.
Ouais. Vous avez une idée du nombre d'individus aujourd'hui, justement, dans le parc national où vous travaillez ?
Alors, dans le parc national, on estime à 1 000 000 le nombre de chimpanzés. Et nous, on suit une communauté d'environ 100 chimpanzés.
1 000 000 aujourd'hui. Mm-hmm. Et il y a quelques années, les chiffres étaient très différents.
Alors, il y a quelques années, c'était difficile de faire des estimations. Ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, le parc est entouré de plantations de thé et d'agriculture, alors qu'auparavant, il y avait encore des fragments forestiers où les chimpanzés pouvaient aller et donc connecter d'autres morceaux de forêt, alors qu'aujourd'hui, ils sont complètement isolés. On se retrouve avec un îlot de forêt entouré de plantations.
Mmh. Victor Nara, vous vous intéressez aux bonobos dans le territoire de Bolobo, en République démocratique du Congo. L'approche de la conservation sur ce territoire est unique et mérite peut-être que vous nous l'expliquiez, peut-être pour avoir un peu d'espoir.
Oui, tout à fait. Ce qui est très particulier là-bas, c'est que ce n'est pas une aire officiellement protégée encore par l'État, mais c'est les villageois eux-mêmes qui, au début des années 2000, se sont mobilisés pour protéger certaines parties de leur forêt, aussi en accord avec leur interdit alimentaire sur les bonobos.
Pourquoi la relation avec le singe là-bas est-elle si particulière ?
Donc ils ont cet interdit alimentaire et considèrent les bonobos comme des anciens humains qui sont partis à la forêt parce qu'ils n'avaient pas payé certaines dettes. Et donc c'est pour cette raison qu'ils ne les mangent pas. Donc c'est à la fois très original d'avoir utilisé cela pour la conservation communautaire.
Ouais, bonobo, bolobo, il y a un rapport tout à fait direct ou pas ?
Il semblerait que oui, on n'a pas la confirmation, mais certains disent que le mot bonobo est seulement un mot occidental et qu'il vient de la déformation du terme de bolobo, d'où venait la première caisse arrivant en Europe hébergeant un individu bonobo.
Ouais, les problèmes sont similaires à ceux de l'Ouganda alors sur le terrain, là en République démocratique du Congo à peu près.
Là où moi je travaille, ils sont très différents puisqu'on a une densité humaine 80 fois plus faible qu'en Ouganda. Et en revanche, les humains vont dans la forêt chaque jour. Donc il y a plutôt une coexistence encore, une bonne coexistence. Et les menaces viennent plutôt de la proximité du fleuve Congo, qui est une voie de transport et de commerce très importante.
Oui, Sabrina Krief, ces chimpanzés en Ouganda, ils ont considérablement modifié leur comportement, justement. Vous nous disiez que maintenant, ils vont justement chercher de la nourriture la nuit.
De façon étonnante, ouais, on a posé des caméras à détection de présence à la bordure du parc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les chimpanzés sortent du parc pour aller piller le maïs et qu'ils ont modifié leur rythme d'activité. Les chimpanzés sont considérés comme uniquement diurnes, il n'y avait aucune information sur leur activité pendant la nuit. Et là, sur les images des pièges caméras, on les voit revenir du pré, les bras chargés de maïs, pendant la nuit, en pleine nuit, en dehors des nuits de pleine nuit.
C'est inquiétant d'ailleurs ce changement de comportement ou pas ?
C'est inquiétant, mais d'un côté, c'est aussi un moyen d'espérer. Ça veut dire qu'ils ont une flexibilité comportementale qui montre une bonne résilience et donc une possibilité de s'adapter jusqu'à un certain seuil. La question est de savoir où est ce seuil.
Axel, il y a un autre exemple de menace sur une autre espèce justement de grands singes, ce sont les gorilles.
Les gorilles des montagnes en République démocratique du Congo encore. Un documentaire vient de paraître et raconte leur histoire. Il s'appelle Virunga et trace le quotidien des gardes forestiers du parc des Virunga. Des hommes qui tentent de protéger les gorilles à la fois des contrebandiers, des pétroliers qui s'intéressent au sous-sol de la forêt et aussi des combats qui opposent les rebelles et l'armée congolaise aux portes du parc. On écoute un extrait.
Quand il y avait eu massacre de nos gorilles, moi j'étais sur le terrain. J'étais parmi les gardes qui avaient trouvé les corps. C'était une grande tristesse. Donc au total, on avait 9 gorilles tués. Leur logique était, si une fois tous les gorilles sont tués, il n'y aura plus quelqu'un pour protéger les parcs.
Voilà, et ce sont toujours les hommes donc au cœur hein, de ces menaces qui pèsent sur ces grands singes, Sabine Krief.
Oui, ce sont des menaces fortes, mais c'est aussi l'homme qui a le pouvoir de faire bouger les choses. Donc aujourd'hui, on sait qu'une des menaces principales, c'est la disparition de l'habitat et le braconnage. Donc l'exposition qu'on va présenter pendant plus de 14 mois au Muséum National d'Histoire Naturelle a pour objectif de montrer que par quelques actions simples, on peut faire bouger les choses.
Mais est-ce que nous, d'ici, en France, on peut faire quelque chose pour les grands singes ou là, c'est totalement illusoire?
Oui, on peut faire pas mal de choses. Réduire notre consommation de papier, recycler, faire attention à l'origine des bois pour nos parquets, nos salons de jardin. On peut aussi faire attention à la provenance des aliments avec de l'huile de palme, des cosmétiques, donc éventuellement les éviter, mais aussi sinon faire attention à leur traçabilité. On peut aussi, quand on n'a plus besoin de son téléphone portable, revendre ou l'emmener dans un site pour le recycler, puisque le coltan est une terre rare qu'on trouve dans cette zone des Virunga et au pied des montagnes de RDC et qui entraîne le braconnage et la disparition des gorilles. Donc des gestes assez simples qui peuvent aider à la survie des grands singes et à la protection des forêts tropicales qui sont aussi pour notre planète un enjeu important en termes de régulation du climat.
Et on aura l'occasion d'en reparler donc à l'occasion de cette expo. Ça démarre le 11 février à la Grande Galerie de l'Évolution, donc au Muséum National d'Histoire Naturelle. Ce sera sur la piste des grands singes. Et puis donc à lire ces deux pages de reportage en Ouganda, en votre compagnie Sabine Krief, dans les pages du cahier Sciences et Médecine du Monde cette semaine. Merci beaucoup à vous et merci à vous Victor Nara, qui est arrivé donc fraîchement ce matin de République démocratique du Congo. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Depuis ce midi, une centaine d'archéologues occupent le musée du Louvre. Ils dénoncent les menaces qui pèsent sur la protection du patrimoine archéologique. Les destructions de vestiges occasionnées par les travaux d'aménagement du territoire concernent plusieurs centaines de sites archéologiques tous les ans. Un rat géant à la mâchoire surpuissante, mais rassurez-vous, il n'existe plus. Son surnom est Radzilla. Il vivait en Amérique du Sud il y a plus de 2 millions d'années. Il ressemblait à un gros cochon d'Inde d'1 mètre 50 de haut et de 3 mètres de long quand même. Et il pesait une tonne, selon une étude publiée aujourd'hui dans la revue Journal of Anatomy. La force exercée par la mâchoire de ce rat géant était environ 3 fois plus puissante que celle du tigre ou des crocodiles de taille moyenne. Un nouveau minéral identifié en Turquie, découvert en 2009 par des scientifiques espagnols, il aura fallu 4 ans d'études pour le caractériser, baptisé fontarnoïte. Ce minéral est un double sel de sodium et de strontium, qui contient aussi de petites quantités de potassium et de calcium. Il se présente sous la forme de cristaux incolores ou légèrement teintés de brun. Et puis enfin, pourquoi les chats aiment-ils tant se mettre dans des boîtes ou dans des caisses? Une vétérinaire néerlandaise vient d'en donner une explication. Elle a séparé deux groupes de chats. Le premier avait des boîtes à sa disposition, le second en était privé. Et résultat, les chats ayant accès aux boîtes étaient moins stressés. Ils s'intégraient mieux à leur environnement et interagissaient plus facilement avec les humains. Donc si votre chat ne se sent pas bien, donnez-lui une boîte. Allez, la diversité des langues, c'est le dossier dans un instant de la Tête au Carré.
Ooh. we are the sharpshooters, flock of parachuters necessary for this turmoil.
Voilà, dans la tête au carré, Björk. Première escale, même si elle chante en anglais, en Islande, avec elle, Earth Intruders.
Mais ça veut dire quoi? Eja fala, jokul,
eja fiatla yokotl.
Comment?
Eja fiatla yokotl.
Ça veut dire?
Oh, c'est en Islande, c'est un volcan.
Un volcan d'Islande?
Oui.
Est-ce qu'il serait éventuellement possible de s'arrêter en Islande? Il faut vraiment que j'aille à Eyjafjallajökull.
Eyjafjallajökull.
Oui.
Oui, il faudra s'arrêter demain.
Super.
Nicolas Tournadre, tous les journalistes se sont heurtés au nom de volcan islandais. Dès qu'il y a une éruption, c'est la catastrophe parce qu'on ne sait absolument pas comment prononcer ces noms. Ça peut être la première question que je vous pose tout de suite pour commencer notre dossier. Il y a cette difficulté réelle par rapport à l'islandais.
Oui, ça c'est encore une fois la peur, la latophobie, la peur de faire des fautes. En fait, c'est un mot très long pour lequel on n'a pas de clé parce qu'on ne connaît pas les racines. En fait, Fjell, par exemple, Fjetla, c'est la montagne. Donc, Aya Fjetla Yokutla pose aucune difficulté pour un Français. Mais il faut le découper en réalité en trois parties. Aya, Fjetla, Jökull. Et donc ça ne présente pas de difficultés phonologiques, puisque des tle en français, il y en a, des Fjetla, faites-le, si je dis faites-le en français, le tle ne pose aucun problème. Donc c'est vraiment une peur, et le fait qu'il y ait un mot très très long, ça fait peur. Et alors dans ces cas-là, il faut décomposer le mot en plusieurs parties, le dire doucement, et ça ne pose aucun problème.
Ça fait peur à l'œil en fait. Hein.
Oui.
Ça fait trop de lettres finalement dans notre œil. Aya, Fjetla, Jökull.
Presque, presque.
Ouais, oui. Bon, on va essayer de s'améliorer en tout cas. Je rappelle que vous êtes linguiste, vous revenez dans la tête au carré pour la suite donc, de notre découverte de la diversité des langues. Vous êtes professeur à l'université d'Aix-Marseille et puis membre de ce laboratoire CNRS LACITO, Laboratoire des langues et civilisations à tradition orale. Et donc ce livre passionnant qui paraît chez l'Asiatech, Le prisme des langues. Vous étiez d'ailleurs ce matin au salon Expo Langue pour une conférence avec le public qui se tient pendant 3 jours, hein, ce rendez-vous à la Porte de Versailles à Paris. C'est un salon donc qui encourage l'apprentissage des langues et le dialogue interculturel. Quel est le meilleur conseil finalement que vous pouvez donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans une nouvelle langue? C'est d'aller avant tout sur le terrain?
Oui, il faut faire les deux. Il faut faire feu de tout bois, s'intéresser, acquérir, si on le peut, une grammaire et un manuel, si ça existe. Ce n'est pas le cas pour les 7000 langues, bien sûr. Le salon Expo Langue qui se tient jusqu'à samedi, ça peut être aussi une bonne occasion. Aller sur le terrain, c'est toujours conseillé. Et étudier en même temps et pratiquer le plus possible quotidiennement. Ouais. Et ne pas avoir peur de commencer en faisant des fautes et de parler de façon approximative.
Alors, sur les 7000 langues, vous répondez à une première question de David. Le nombre de langues répertoriées dans le monde, il y en a combien qui sont représentées dans un salon comme celui-là, par exemple? Beaucoup moins, bien sûr.
Beaucoup moins. On tourne à peut-être quelques centaines au maximum. Ouais. Au maximum. C'est encore, je suis sûrement généreux.
Ouais. 7000 langues, alors ça, c'est un résumé de la première émission. Et seulement 300 qui possèdent un système d'écriture.
C'est ça. 300 qui possèdent... En réalité, non. 300 langues écrites qui ont un certain corpus et 50 systèmes d'écriture, c'est-à-dire encore bien moins.
Ah oui.
Parce que les 300 langues qui ont développé depuis un certain temps des corpus écrits peuvent tout à fait utiliser la même écriture. Le turc est écrit à l'heure actuelle en alphabet latin, ainsi que l'indonésien, ainsi que le vietnamien, avec évidemment quelques signes diacritiques en plus. L'arabe sert à écrire des langues turciques comme le ouïghour qui est parlé en Chine, ouïghour. Et donc, si vous voulez, les écritures, en fait, ne sont pas associées de façon inaliénable aux langues. Ce sont des vestes dont les langues peuvent changer de façon assez, d'ailleurs, répétée dans l'histoire.
Ouais, il y a plusieurs exemples.
Il y a des exemples très drôles. Alors, prenons par exemple le cas de l'hébreu, et ça, c'est un exemple très peu connu. Donc, un millénaire avant notre ère, il y a les premières traces d'hébreu sont dans une écriture proche du phénicien, qu'on appelle Acta Ivri, donc l'écriture véritablement paléo-hébraïque, à Attique. Et cette écriture-là, elle est utilisée pendant 5 siècles. Et c'est l'écriture dans laquelle est rédigée la Torah, la Bible. Donc la Bible juive est rédigée dans cette écriture. Et aux environs du 5e siècle, il y a probablement, d'après ce qu'on raconte, un scribe qui s'appelle Ezra, qui ramène d'exil de Babylone, donc d'Irak actuel, si vous voulez, une autre écriture qui s'appelle actuellement Akhtav Ashuri, ce qui signifie l'écriture assyrienne. Donc, l'hébreu, l'écriture hébraïque actuelle, dans laquelle est écrite la liturgie juive et l'écriture d'Israël, l'écriture officielle, est en fait une écriture qui vient d'Irak, qu'on appelle l'araméen impérial. Alors ça, c'est assez peu connu. C'est évidemment, par les temps qui courent, d'intolérance, de xénophobie, etc. C'est amusant de voir que les écritures et les langues sont des ponts extraordinaires. Il y a un autre exemple qui est très drôle aussi, c'est l'exemple des langues de Perse. Donc, les premières langues de Perse, le vieux Perse. Alors, il faut rappeler que le Perse, c'était une langue indo-européenne, très très proche du sanskrit, en réalité à l'origine, l'avestique. Et puis, le vieux perse est écrit dans une écriture sémitique, au départ, l'ougarite, qui sert à noter également l'acadien, une autre langue sémitique. Le moyen perse est écrit en araméen, une écriture araméenne, également sémitique. Et le persan actuel, les premiers documents de persan actuel sont écrits dans une autre écriture. Laquelle, à votre avis?
Une colle que vous me posez.
En écriture hébraïque. C'est-à-dire que l'hébreu, l'écriture hébraïque, aurait pu devenir la langue, l'écriture officielle de l'Iran. Et c'est quelque chose qui est connu par l'élite iranienne, c'est un secret pour personne. Il y a des manuscrits, magnifiques d'ailleurs, en judéo-persan, c'est-à-dire du persan écrit en écriture hébraïque avec des miniatures persanes. Et on a ça sur près d'un millénaire, c'est-à-dire les derniers manuscrits de ce style datent du 19e siècle. Alors voilà, si on a connaissance de ça, évidemment, ça donne un autre regard sur l'histoire et les cultures. Juifs et persanes, par exemple.
Nicolas Tournadre, on parlait des menaces tout à l'heure sur les grands singes. Est-ce qu'il y a une menace aussi réelle sur les langues du monde, sur ces 7000 langues dont on parle aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une véritable extinction en cours ou pas?
Énorme, énorme. Jamais dans l'histoire de l'humanité, la menace a été aussi grande. Beaucoup de linguistes le disent. En France, des linguistes comme Claude Agege, comme Colette Greenwald et beaucoup d'autres le disent.
Il y a un phénomène d'accélération aussi sur la disparition de ces langues?
C'est énorme, parce qu'en réalité, les 7000 langues, la plupart des 7000 langues sont parlées par des communautés qui comptent parfois un millier de locuteurs et qui ne sont évidemment pas écrites. Mm-hmm. Et donc, avec la perte de ces langues, on a la perte de pratiques ancestrales, de techniques ancestrales, de pharmacopées, de mythes, de récits du monde, de chants. Et c'est tout à fait, et c'est pour ça que c'était intéressant avec votre invité tout à l'heure, de faire des analogies avec la disparition biologique. On compare souvent la disparition des espèces avec la disparition des langues, car ce sont des disparitions qui ne... les langues ne vont pas se régénérer. Et si une langue de quelques 300 familles disparaît, c'est pour toujours. Ouais. Et donc, on perd toute cette expérience humaine. Et comme dans le cas des espèces animales ou végétales, on ne sait pas ce qu'on perd. On peut perdre des choses extrêmement intéressante, si vous voulez, et malheureusement très mal documentée encore à l'heure actuelle.
D'où l'intérêt d'avoir des linguistes de terrain aussi, qui peuvent de temps en temps, en tout cas, faire un travail de compilation, aller enregistrer hein, les populations qui sont les toutes dernières à communiquer et qui ne vont même pas transmettre à leurs propres enfants ces langues tout à fait particulières et minoritaires. La langue et les émotions, ça aussi vous en parlez dans ce livre. Vous incitez beaucoup sur l'ancrage finalement d'une langue dans l'expérience individuelle d'un individu. Ça compte beaucoup aussi.
Oui, parce que les langues ne sont pas simplement faites pour l'information, pour communiquer de l'information. Elles communiquent des affects beaucoup, des expériences, et donc elles disent beaucoup « je suis là, je pense à toi, je t'aime », etc. Elles permettent de résoudre les conflits, ou au contraire, ou de faire des alliances aussi, beaucoup. Quand on n'a plus de possibilité de parler, c'est là que la violence arrive en général, c'est la dernière barrière. Mais les mots sont des sortes de déclics émotionnels. Si on prend des mots, par exemple, prendre 3 ou 4 exemples, comme le mot « guerre ». Là, en ce moment, ce qu'on a vécu à Paris, certains le décrivent comme une guerre. Quelqu'un qui a vécu, si vous voulez, la Deuxième Guerre mondiale, ou quelqu'un qui a vécu la guerre, qui vit la guerre en Syrie actuellement, sûrement ne va pas avoir la même utilisation du mot « guerre ». C'est la même chose par rapport à des mots comme « neige ». Chacun a son expérience de la neige, et ça va générer des associations différentes. Il en va de même pour les couleurs, où j'ai encore assisté il n'y a pas longtemps à des discussions très vives pour la définition du bleu ou du violet, chacun ayant sa propre conception, et ça peut être dû soit à des phénomènes de définition linguistique, soit à des phénomènes même de perception. Donc l'expérience est au cœur de ça. Un dernier exemple, c'est que j'utilise dans le prisme, c'est la tsampa, qui est la farine d'orge grillée que mangent les Tibétains. Eh bien, cette tsampa, si vous voulez, dans l'expérience tibétaine, est utilisée pour faire pour manger d'abord, pour manger du thé, pour faire des effigies, pour faire des dessins. Et donc, dans l'expérience tibétaine, la tsampa, c'est très très important, et ça a des connotations que ne peuvent pas comprendre des gens qui n'ont pas vécu sur place.
Allez, on va se retrouver dans un instant avec vous, Nicolas Tournadre. Et puis, il y a beaucoup de questions qui arrivent sur franceinter.fr, et nous allons entendre aussi la sonorité de plusieurs langues, avec beaucoup d'histoires, justement, inhérentes à ces langues qui seront avec nous dans un instant. François and the Atlas Mountain avec, bien sûr, Et c'est dans la tête au carré.
Bien sûr, je veux tout te dire à temps, tout ce que tu veux, m'entendre dire à temps. Car plus le temps passait vraiment, le doute m'était rentré au ventre, m'immobilise. Du sort me rire, quand tout s'en est allé. Coulent toujours les fontaines de l'été. Des enfants nus courent les rues, jettent leur la soie, pour qu'ils ne prennent pas froid, couvrent-les de souvenirs. Laisse partir. Comme les enfants ont grandi vite, j'entends déjà leur rire démentir, dénier, boucler des valises. Tous ces départs m'immobilisent. Reste le phare. Thank you.
François M.B. Atlas Mountain, Jean-Michel Montu pour la programmation musicale de La Tête au Carré, Nicolas Tournadre, notre invité, Le Prisme des Langues, donc ce livre paru à l'Asiatèque, avec une préface de Claude Agege, grand linguiste français, lui aussi, qu'on a beaucoup de plaisir à recevoir de temps en temps.
Je salue aussi l'Asiatèque qui a fait un travail énorme de publication de langues non indo-européennes, et aussi indo-européennes, d'Europe, d'Asie, d'Afrique et amérindienne. Mmh. Donc c'est fantastique qu'on ait de ces éditeurs-là en France.
Beaucoup de courriels pour vous. Jean-Paul nous dit ceci. Les langues latines ont évolué au cours des siècles. Leurs locuteurs aujourd'hui ne se comprennent plus, français, italien ou roumain. On dit par contre, Jean-Paul, que dans le monde turcophone, de la Turquie au steppe mongol, malgré les siècles passés et les différenciations, les populations continuent à se comprendre sans problème. C'est vrai ça ?
Partiellement.
Sur des distances aussi importantes.
Oui, hein. C'est énorme. Depuis la Turquie jusqu'au Turkestan chinois, donc ce qu'on appelle en chinois le Xinjiang, c'est-à-dire ce qui est une nouvelle frontière en chinois, ouais. Et bien entre le Khazar, le Kirghiz, l'Ouzbek, le Turkmène, le Turc, etc. Et effectivement, les mots de base sont les mêmes. Alors là, de là à dire qu'il y a une
on peut
vraie...
pas se comprendre immédiatement,
non,
mais
immédiatement.
On mais peut ça, réapprendre très vite,
très,
c'est
très
ça.
Vite, ouais, ouais. Le Khazar, etc. Ça s'apprend très vite.
Vous parlez beaucoup de la mémoire aussi, la langue et la mémoire. Les langues sont des mémoires d'ailleurs.
Hein. Sont des musées, des concepts.
C'est ça, ouais. Ouais.
On l'a encore en français quand on dit le soleil se lève ou quand on dit un cheval vapeur. Hein, ta voiture a combien de chevaux? Quand on dit en tibétain le mot pour montre, c'est chute qui signifie mesure à eau, ce qui nous renvoie au clepsydre des Grecs. Donc c'est vraiment des concepts. Le mot musique qui renvoie à la mythologie grecque avec les muses, etc.
Ouais, il y a beaucoup de choses qui se racontent dans les noms d'ailleurs de villages aussi.
Il y a
les mémoires,
l'étymologie
des indications aussi très précises sur les lieux, par
absolument,
exemple.
Absolument. Hein. On a beaucoup, je pense par exemple au nom en Provence où on a la racine d'Adret, etc. Le village qui est orienté vers le sud, ouais. Et du côté du flanc sud de la montagne.
Ouais. Nicolas Tournadre, écoutons ensemble la langue rom, parce que c'est agréable aussi, on parle de langue, mais c'est bien de les entendre. Absolument. Quand même, ces langues. Là, c'est une chanson,
c'est
en
une chanson
on apprend
de,
à compter.
Voilà, de Méchi. Non, pas du tout, pas non. Du tout, c'est une chanson d'amour aussi. Moi, je ne parle pas le rom couramment, loin de là, je connais quelques, disons, expressions et la structure un peu de la langue. C'est Méchi et Ferusca, je pense qu'ils sont de Serbie.
Alors, on l'écoute.
Star, bare frajena, kodisko kruvena, ola sarma mekena, jek olendar mu bilo birinjo, sarka ova vam len, jek duj tri star.
Voilà, il compte hein, au début.
Alors, ouais. Quelqu'un qui parle le hindi, ou le gujarati, ou les langues de l'Inde du Nord, reconnaît tout de suite, ek do tin char, et là il dit, jek duj Trishtar, c'est presque pareil.
Donc
et
ça veut dire
continuerait.
Que cette langue rom, c'est aussi, on parlait de cette mémoire, ça peut être une mémoire de l'Inde aussi.
Mais absolument, c'est-à-dire on parle beaucoup des roms, mais pas, malheureusement, on ne fait pas ressortir des choses extraordinaires, toujours, comme leur musique qui est absolument fabuleuse, la musique tzigane, et on ne parle pas non plus du fait qu'ils ont gardé la mémoire de tous les territoires qu'ils ont traversés. Ouais. D'abord, ils viennent de l'Inde, et leur langue, le mot pour lait, c'est doud en hindi, le mot pour l'eau, pani ou paille, c'est pani en hindi. Donc, les verbes kerel, shunel, faire, entendre, dikel, etc., ça nous rappelle tout à fait le hindi, deka, etc. Donc, on a des échos du hindi, mais on a des échos du grec, du persan, puisqu'ils ont d'abord traversé la Perse, ensuite du grec, etc., et puis de l'arménien, etc. Et ils sont arrivés, finalement, en Europe, et ils sont arrivés en Roumanie. Et alors là, il y a une confusion terrible que, malheureusement, on continue à faire, c'est qu'on renvoie des Roms en Roumanie. Quelle tristesse, surtout quand on sait ce qu'ils ont aussi vécu, n'est-ce pas, avec les Juifs et d'autres populations, mais surtout les Juifs et les Tziganes ont été quand même les premières victimes, et là, on les redéporte. Et on oublie cet héritage extraordinaire des Roms qui viennent de l'Inde et qui charrient ça dans leur langue.
C'est
et,
ça, et on a les déplacements humains dans les mots qu'ils
emploient. Absolument, absolument. Ouais. Et c'était vraiment, ils ont gardé toute cette mémoire. Et on le sent là dans cette musique ici des Balkans. On a à la fois la musique qui est particulière, et puis en même temps, on a la langue ou la grammaire est très proche, si vous voulez, des langues du nord de l'Inde actuelle.
Ouais. Est-ce qu'il y a des langues, alors je ne sais pas quel terme on peut employer, mais pures par exemple, qui n'auraient aucune influence de nulle part, ou est-ce que c'est complètement impossible ?
C'est pratiquement impossible. Toutes les langues sont en quelque sorte créolisées. Alors, ça veut dire en tout cas qu'il y a un mélange toujours, il y a un emprunt, parce que les mots s'échangent comme les objets, si vous voulez. Ouais. Et depuis toujours, et l'être humain, il échange foncièrement. Donc, non, il n'y a pas de langue pure, on peut le dire, bien sûr.
On va écouter une chanson yiddish avec vous, Nicolas Tournardre.
Bei mir hast du kein, bei mir bist du eine auf der Welt. Bei mir bist du gut, bei mir hast du it, bei mir bist du Teiere von Geld. Viel schöne Mädle haben schon gewollt, nehmen mir.
Voilà, donc cette chanson yiddish, dont je serais bien incapable de vous donner le titre.
By mir bist du chein, by mir hos du chein.
Qu'est-ce qu'on entend alors dans ces mots, Nicolas Tournardre ?
Alors, le yiddish, alors d'abord, une petite blague juive. Quelle est la différence entre le yiddish et l'allemand ?
Alors, dites-moi.
Alors, le yiddish est de l'allemand avec de l'humour. Alors, c'est pas tout à fait vrai, bien sûr. D'abord parce que le yiddish a effectivement 80% à peu près de mots germaniques, mais en même temps, il a le reste, ce sont des mots d'hébreu, d'araméen, et puis il y a également beaucoup de mots slaves. Et donc là aussi, comme dans le cas des Roms, et pour des raisons aussi diasporiques d'ailleurs, les communautés ashkénazes qui parlaient le yiddish ont accumulé, n'est-ce pas, des mots qui venaient aussi d'ailleurs, même si effectivement ça reste relativement proche de l'allemand, mais là, quand on les deux premières phrases, bei mir bist du schön, c'est pour moi en allemand, ça serait bist du schön, et pour moi tu es belle, et bei mir hast du chen, et là c'est déjà un mot hébraïque, c'est-à-dire pour moi tu as de la grâce. Le mot chen, ça veut dire grâce en hébreu. Et voilà, on voit tout de suite. Alors là, évidemment, il y a pas mal de mots qui sont complètement incompréhensibles pour un germanophone.
Ouais. Si on parle de complexité des langues, alors justement, là aussi, c'est très subjectif, selon sa culture, selon la sonorité même de la langue. Et ou alors, est-ce qu'il y a une sorte d'équivalence à la complexité des langues du monde ?
Ce qu'on peut dire, il est très difficile de parler de complexité globale. Ça n'a pas d'intérêt, c'est un peu faire le Guinness des records, si vous voulez. En revanche, évidemment, on peut parler de complexité dans certains domaines et comparer une langue à une autre. On peut dire que certains, à la même langue, on peut dire que certains domaines d'une langue sont plus compliqués que d'autres domaines de la même langue.
On peut faire des mesures objectives de la complexité d'une langue, par exemple ?
Alors, de mesurer objectivement certains domaines et sous-domaines, c'est possible. Mais si on prend, par exemple, le chinois, le chinois écrit, le Chunwen, est de loin l'écriture la plus complexe au monde, tout simplement parce que pour la manier, vous avez certains lettrés qui connaissent jusqu'à 8000 caractères. Bon, c'est rarissime.
Donc
pour
il y a la mémorisation du nombre de mots, voilà. Et vous dites aussi du geste.
Oui,
de l'écriture.
Oui, du geste de l'écriture quand il s'agit du chinois, parce qu'en fait, on doit écrire avec évidemment l'ordre des traits, ce qui est redoutable, parce qu'il faut mettre l'ordre dans l'écriture, les traits dans le bon ordre, sinon ça marche pas. Et alors, à l'heure actuelle, avec le développement de l'ordinateur, les jeunes chinois perdent de plus en plus. C'est un problème à l'heure actuelle, puisque le geste de l'écriture est en train de se perdre. Et moi-même, j'écris assez mal en chinois. Je lis beaucoup, évidemment beaucoup mieux, et je tape constamment à l'ordinateur en chinois.
Donc vous n'avez plus le geste,
donc,
justement.
Je n'ai pas le geste, pas du tout. Et donc, c'est un problème même en République populaire de Chine et à Taïwan.
Ouais. Il y a un classement qui a été fait, c'est ça, des 155 langues en fonction de leur complexité. Alors, quelle serait la langue la plus difficile, s'il faut établir un palmarès, même si vous n'êtes pas très...
Non, je ne vais pas rentrer dans ce genre de palmarès et de Guinness. Comme je l'ai dit, il y a certains domaines de langue. Alors là, pour...
Il y a une langue du nord du Pakistan, alors, apparemment, qui
oui,
en sort.
Oui, le Burushaski, on sait.
Burushaski, c'est ça.
Oui, alors si on parle là de la complexité, là, par exemple, il y a des cas... On parle rarement de la complexité des langues bantoues, si vous voulez, en Afrique.
En Afrique, oui.
Oui. Nous, on a par exemple deux genres masculin-féminin. Il faut s'imaginer que dans des langues bantoues, des langues ouest-atlantiques, il y a jusqu'à une trentaine de classes nominales. C'est littéralement impossible pour un Européen d'apprendre à parler sans faute une langue Niger-Congo, une langue bantoue qui a autant, qui a une vingtaine ou une trentaine de classes. Alors, on a la vision coloniale a fait qu'on parle de l'Afrique toujours en disant dialecte africain, etc. Mmh. En réalité, ces langues qui ne sont beaucoup ne sont pas écrites, en dehors des grandes langues comme le Lingala, le Kikongo, le Swahili, bien sûr, et d'autres langues. Mais ces langues-là sont d'une complexité, même si elles sont purement orales, certaines, d'une complexité énorme, ouais, véritablement. Alors, puisqu'on parle de complexité, j'aimerais parler d'une... Allez-y.
Non, je vous en prie.
J'aimerais parler d'une autre langue qui, alors là, me semble avoir le pompon. C'est la seule langue d'Europe qui soit un isolat et qui soit non indo-européen.
Ah, ben c'est le basque.
Voilà,
c'est ça,
le basque.
On en parle dans un instant avec
D'accord.
vous. Allez, et on écoutera justement la langue basque. Il y a des messages aussi pour vous sur franceinter.fr. C'est la voix d'IBI sur France Inter. Nicole. Nicolas Tournadre, notre invité, le prisme des langues aux éditions de l'Asiathèque, avec cette évocation donc de très très nombreuses langues, hein, évidemment, parce que ça donne l'occasion d'évoquer beaucoup de ces langues du monde, parmi les 7000 que nous évoquions tout à l'heure, et puis donc le basque. Alors le basque, vous disiez que c'était le seul isolat non-indo-européen de l'Europe. Pourquoi? Comment ça s'est passé?
Eh bien, on pourrait presque, ça déboucherait d'ailleurs sur une conception géopolitique. Les Français, donc c'est une langue qui porte un nom germanique, hein, les Francs, parlés par une population majoritairement celtique au départ, et donc qui ont adopté une langue romane. Mais qui était là avant tout ce beau monde? Les Basques, c'était la population qui était là avant les Indo-Européens. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils parlent une langue apparentée à nul autre au monde, d'une complexité qui est aussi différente du français et aussi grande que celle du japonais pour un français. Et ça, on n'en est pas conscient. On a un véritable joyau, le basque, et je dirais qu'il faudrait...
C'est notre trésor national, c'est ça.
Il faudrait le proposer comme un trésor immatériel national français, ce qui d'ailleurs réparerait un peu une certaine injustice, parce que le basque, comme les autres langues dites régionales, a été très mal traité, alors qu'il se porte très bien en Espagne, mais très mal ici. Alors, pour donner juste un tout petit exemple de la complexité, en basque, le verbe s'accorde avec le sujet, avec l'objet direct, avec l'objet indirect et même avec la personne à qui on s'adresse. Donc si je dis par exemple « Niko paribat eman diot », je lui ai donné le cadeau, littéralement je te dis que je lui ai donné le cadeau, le verbe « sioat » ou diot s'accorde, plutôt sioat, s'accorde avec à la fois le sujet, l'objet direct, l'objet indirect et ce qu'on appelle l'allocutif, c'est-à-dire la personne à qui je t'adresse. Et en plus de ça, on précise si la personne à qui on s'adresse est masculin ou féminin. Ouais. C'est d'une complexité inouïe.
C'est très compliqué.
Ah ben, absolument inouïe. Ouais. Oui, c'est très très difficile. Et comme je le disais, les structures sont plus complexes, à mon sens, que celles du japonais, par exemple.
On va écouter justement la langue basque avec vous. Vous avez choisi cet extrait, Nicolas Tournadre. C'est un anthropologue, c'est ça?
Oui, c'est Éric Dichary.
Il a parlé le basque avec un petit accent français?
Oui, mais comme la plupart des bascophones, si on l'entend, les bascophones du côté espagnol, ils ont un accent plus espagnol, si vous voulez, tout simplement parce que les basques des deux côtés sont bilingues.
Alors on écoute justement cette langue.
Aspaldidanik, olerkia gustuko adut. Pentsatzen baitut olerkien bidez, mezu zuzenak pasarazten ahalko dituela olerkigileak. Eta orduan ba, nik beti esaten dut, olerki bat idazten dudanean politikan sartzen naiz, gauzak azpimaratzeko, gauzak salatzeko, eta hitz gutxiekin, pentsatzen dut gauzak asko.
Voilà, donc c'est cet anthropologue qui réapprend en fait la langue basque.
Oui, je pense qu'il était, je ne sais pas exactement son histoire, je pense qu'il, d'après ce que j'avais vu, il l'a appris pas tout à fait tout jeune, et en tout cas c'est un exploit que d'apprendre le basque lorsqu'on n'est pas natif à un âge, lorsqu'on l'apprend pas tout enfant.
Marie-Noël nous dit sur franceinter.fr à propos du basque, le village basque Mundaka a la même orthographe que la Mundaka Upanishad, un texte sacré indien.
Oui, alors là, les coïncidences en langue, comme il y a 5000 langues et comme les sons sont relativement, si vous voulez, limités, là, on ne peut rien en dire de façon affirmée absolue.
Alors, il y a beaucoup de questions sur le hongrois, Nicolas Tournadre. Alice, est-ce que votre invité peut nous dire quelques mots sur le hongrois, cette langue atypique enclavée entre les langues slaves et latines d'Europe de l'Est? Et puis également, ce courriel d'Alice qui nous dit ceci. J'ai passé 6 mois à Budapest pendant mes études. J'ai pris sur place des cours de hongrois pour étrangers. Mais c'est une langue extrêmement difficile. Au bout de 6 mois d'immersion, je savais à peine me guider dans la rue et balbutier dans la vie de tous les jours.
Oui, le hongrois comme le finnois et l'estonien quelques autres langues, il faut parler du groupe des langues finno-ougriennes, et effectivement ce sont aussi des langues non indo-européennes, mais ce ne sont pas des isolats comme le basque, et j'aurais tendance à dire que la complexité elle est tout à fait grande parce que ce n'est pas indo-européen, mais le basque d'une certaine façon là est encore plus complexe.
On écoute la langue inuit aussi, je crois qu'on a un extrait, Violaine Balemeul confirme derrière la vitre, donc on écoute de l'inuit.
Una tukise maya ojo seora tusagatsane alla se maya tigot hagita oya kolone homoa se maya tigot. Alla tamasud inuimit sanut Inuit Angayatituinet.
Voilà, donc nous écoutons de l'inuit sur France Inter en ce moment même. C'est une belle sonorité.
Oui.
Alors c'est une langue polysynthétique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Oui, juste un petit mot d'abord pour dire que c'est on a entendu la voix de Nancy Itrouk et c'est un extrait qui m'a été donné par Marc-Antoine Mailleux qui travaille au CNRS dans mon laboratoire et c'est de l'Inuktitut du Nunavik du Québec arctique.
Ah oui, donc c'est vraiment très localisé.
Il y a beaucoup de langues inuites aussi. Ouais. Elles sont pas très très éloignées les unes des autres. Et là, dans l'extrait, elle disait que les médias du Sud ont tort de présenter les Inuits comme des alcooliques et qu'ils souffrent beaucoup des transformations sociales. Ouais. On peut parler du changement climatique, etc. Oui, les langues inuites sont inouïes pour une raison simple, c'est qu'elles ont développé un système polysynthétique.
Ça veut dire quoi?
Alors, polysynthétique, ça signifie que, grosso modo, vous pouvez très facilement former des phrases avec un seul mot. Alors, ça signifie, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait dire, par exemple, mangera du caribou avec trois mots.
Oui.
Mais vous pouvez, la technique qu'ils ont développée avec d'autres langues amérindiennes, c'est d'utiliser des suffixes qui se conjuguent, de mettre des suites de suffixes les unes à la suite des autres. Et le plus simple pour l'expliquer, c'est de dire que, par exemple, je forme facilement en inuit une phrase du type « je caribou ciderai ». En français, on a un mot « cid ». Qui signifie tuer, n'est-ce pas, en suffixe, infanticide, parricide, ethnocide, génocide, etc. Donc, en langue inuite, on dirait quelque chose comme, on pourrait dire, je ne recaribouciderai pas, je ne retuerai pas des caribous, mais ça ne forme qu'un seul mot, parce que tout ça sont des suffixes. Et même chose avec le suffixe vor du latin, n'est-ce pas, carnivore, eh bien on pourrait dire, il caribouvorera, c'est-à-dire, il mangera du caribou.
D'accord.
Du coup, on a cette possibilité extraordinaire former tout un tas de phrases avec un seul mot.
Et on peut faire des dictionnaires comme ça de ces langues, ou ça pose justement des grosses difficultés?
Un énorme problème. Nicole Tercis, qui est aussi CNRS, a fait un dictionnaire, mais elle a, comme un certain nombre de chercheurs, mis les verbes d'un côté et les noms, les vrais verbes et les vrais noms, et puis on est obligé de faire un dictionnaire des suffixes, car il y a des centaines de suffixes, et donc c'est une stratégie qui n'a pas été retenue par d'autres langues. Ouais. C'est donc très extraordinaire, et ça mérite évidemment d'être connu, c'est une stratégie qu'ont exploité ces langues esquimaux aléoutiennes.
Gino nous dit sur franceinter.fr, en Midi-Pyrénées, dans certaines communes, il a été créé un enseignement bilingue français-occitan dès la dernière année de maternelle, l'intérêt n'étant pas à la base de l'apprentissage de l'occitan en soi, mais la création de connexions neuronales. Qu'en pensez-vous?
Mais je pense que jouer avec les langues et utiliser les langues de façon ludique et de façon instructive pour l'éducation, etc., c'est clair que ça développe des capacités. Je pense que c'est tout à fait utile de le faire.
Oui. Yann nous dit ceci, on dit que l'Afrique est de loin le continent de la plus grande diversité linguistique. Cela étant dû à la longue période où seul ce continent était habité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Je crois qu'il faut vraiment beaucoup nuancer. Il y a regardez un autre endroit où la diversité est probablement aussi importante, même s'il y a moins de langues qu'en Afrique, il y en a 850, c'est la Nouvelle-Guinée-Papouasie.
Ouais.
Et là, la raison en est très simple, c'est les montagnes. C'est une zone de montagne tropicale ou équatoriale, extrêmement difficile d'accès, ce qui fait que la vallée voisine ne va pas parler la même langue, etc. Donc, 850 langues en Nouvelle-Guinée-Papouasie. Et en Afrique, effectivement, un millier de langues, mais c'est dû à l'immensité de l'Afrique aussi.
Ouais. Il y a une étude récente dont on a parlé sur l'antenne, qui a étudié, alors si ma mémoire est bonne justement, le climat et l'humidité par rapport justement aux langues parlées des peuples. Et on voit justement que les sonorités ne sont pas du tout les mêmes si on se trouve dans les tropiques ou dans des latitudes bien différentes.
Oui, on a montré qu'il y avait des langues, par exemple, les langues à ton se trouvaient plus en zone tropicale humide et on a trouvé qu'il y avait des éjectives, des consonnes éjectives, etc., qui étaient plus fréquentes dans les zones d'altitude.
Ouais.
Mais la corrélation n'est pas aussi claire que cela, je pense.
Dernière langue à écouter ensemble, justement, Nicolas Tornard. La langue surzik, c'est ça?
Surzik.
Surzik.
Voilà.
Alors, c'est une langue qui est aussi dans l'actualité hein, en ce moment. On l'écoute d'abord et puis vous allez nous dire pourquoi.
Справді, що я народився в невеличкому містечку. Я жив в сім'ї військовослужбовців, я був звільнений від вивчання української мови. Тобто все моє свідоме навчання відбувалося російською мовою.
Voilà, on dirait un bulletin d'information hein, en surjik. Alors, c'est de la langue russo-ukrainienne, c'est
oui,
ça?
C'est ça. C'est en fait un mélange de russe et d'ukrainien. Surjik désignant un type de mélange de céréales. Et Alors qu'on présente la guerre en Ukraine dans la région de Donetsk et Luhansk actuellement comme aussi fondée sur des causes linguistiques, il faut dire que 30% de la population en Ukraine parle un mélange d'ukrainien et de russe, et que dans cette vidéo que j'ai trouvée, ça commence de façon très amusante où un ukrainien qui est tout à fait qui le dit, qui parle en russe, mélange deux produits chimiques et ça fait une explosion, et donc pour parler de façon amusante du surgik, pour dire que c'est une langue explosive, mais c'est la langue que parlent 30% des Ukrainiens. C'est en fait de l'ukrainien dans sa grammaire et du russe dans son vocabulaire. Et ça n'a jamais posé de problème à personne jusqu'à ce que ça soit utilisé, exacerbé par les nationalismes pour, attiser ce conflit-là.
Ouais. Dernière question pour vous, celle de Igor. Quelles sont les origines de la langue de bois, s'il vous plaît, Nicolas Tournard? Est-ce que vous avez une explication à cette question cruciale?
La langue de bois, la langue sert aussi à manipuler, évidemment. Donc, les langues de bois, la xyloglossie dans toutes ses formes, et de Orwell, etc., tout ça, ça existe depuis très longtemps. Et le mensonge et la manipulation fait aussi partie des utilisations du langage. Donc, je pense qu'il faut aller chercher très loin.
Une explication quand même, Nicolas Tournard. Le prisme des langues, paru aux éditions de l'Asiatèque. Merci beaucoup. Bonjour, Fabrice Drouet.
Bonjour. Il y a un chapitre sur la langue italienne.
Oui, alors le nombre de pattes, parce qu'on parle toujours de la neige en ukrainien, la neige dans les langues inuites, mais en fait les Italiens ont le maximum de noms pour les pattes.
D'accord.
De quoi parle-t-on dans l'affaire sensible?
Salaud. Ça vous surprend. Hein. Salaud ou les 120 jours de Sodome, rassurez-vous.
Voilà. Ah oui.
Mais oui, le film de Pasolini.
Très particulier.
Qui a fait une polémique énorme, très sensible. Hein. Nous en parlons avec notre invité Hervé Joubert-Laurencin, professeur d'histoire du cinéma à l'Université de Paris-Nanterre, spécialiste de l'œuvre de Pasolini.